podcast de l'UA. C'est quoi cette histoire de Moyen-Âge ? Épisode 1. Carole, le Moyen-Âge et toi. Je m'appelle Carole Avignon et je suis historienne. Je suis docteur en histoire du Moyen-Âge, maîtresse de conférences à l'Université d'Angers. J'étudie l'histoire médiévale et je l'enseigne à des étudiants. Ce métier, c'est celui d'enseignant-chercheur. D'ordinaire, quand je m'exprime oralement, je sais à qui je parle, à des étudiants dans nos amphis, ou bien à des collègues à l'occasion de conférences ou de communications en colloque où nous nous retrouvons pour partager des connaissances sur un sujet qui nous réunit. Un colloque, c'est bien le lieu et le moment où l'on parle ensemble. C'est l'étymologie du mot, son histoire à lui. Parler ensemble, cela signifie alors s'écouter, s'exprimer dans un contexte bien défini, où les règles sont connues de toutes et de tous, à l'avance. Les questions qui nous préoccupent et dont on espère des réponses ou des bribes de réponses, le temps de parole qui est confié à chacune et chacun, l'ouverture d'un espace de dialogue pour préciser, reformuler, améliorer, repenser parfois ce qu'on n'aurait pas encore assez clairement précisé, formulé ou pensé. Les sciences, ici on les appellera humaines et sociales, se fabriquent au sein d'une communauté de personnes qui parlent un peu toutes le même langage, maîtrisent des codes professionnels et des usages sociaux. Peut-être que toi, tu n'es encore qu'une collégienne ou un lycéen ou une jeune étudiante ou juste un curieux. Peut-être que tu es arrivé jusqu'à cette petite collection de podcasts parce que tu as le goût des jeux vidéo et que tu as eu la curiosité de jouer quelques parties de Cap ou pas Cap, bande de bâtards. Peut-être que tu aurais beaucoup à m'apprendre de l'univers des jeux vidéo ou sur la fantasy qui irrigue nombre de créations multimédia qui te divertissent après les cours. Tu n'es pas un de mes étudiants dans un amphi. Tu ne passeras pas de diplôme à la fin du semestre. Tu n'as pas à maîtriser tous les gestes du métier d'historien pour l'exercer à ton tour. Aujourd'hui, c'est à toi que je m'adresse. Je vais imaginer que tu es l'une des personnes de, 7 à 77 ans à qui j'ai présenté mes recherches en histoire médiévale grâce à ce drôle d'outil pour moi qu'est ce petit jeu vidéo que je me suis toquée d'imaginer. Je vais essayer de te donner un peu à entendre ce qui se joue quand tu joues avec le Moyen-Âge. Ça, ce sont les enjeux. Ce dont je te parle au travers des vies de Marguerite et de Jehan, que tu as peut-être déjà incarné le temps d'une partie. Là, c'est le prisme. Et un peu, en fait, de ce que c'est que faire de l'histoire. Et ça, c'est la finalité de cette collection de podcasts. À l'écrit, il suffit d'ouvrir des guillemets et par convention, tout le monde doit comprendre que ce qui suit est le texte d'un autre. À l'oral, je ne sais comment faire sinon te dire que j'aimerais commencer en forme de florilège en citant quelques paroles d'historiens et d'historiennes qui ont consacré leur vie à l'étude du Moyen-Âge. Tu sais, le Moyen-Âge, c'est cette période de l'histoire de l'Occident qui se déploie sur près de 1000 ans, du 5e siècle au 15e siècle. Ce Moyen-Âge avec lequel je t'ai fait un peu jouer, si tu as testé quelques parties du jeu vidéo Cap ou pas Cap. Ce Moyen-Âge, auquel tu associes peut-être quelques monuments comme des châteaux forts ou des cathédrales, quelques paysages comme des remparts autour des villes, quelques toponymes comme les noms des lieux-dits ou des villes, comme les Villeneuve, Villefranche, Essart, Clos. Ce Moyen-Âge, qui nourrit aussi sûrement ton imaginaire ludique ou festif fait de chevaliers, de villages pavoisés et de jongleurs, mais aussi, plus sombre, de violences débridées, de combats sanglants, d'ignorance, d'oppression ou d'injustice. En 2004, l'historien Jérôme Bachet écrit dans son introduction à une synthèse intitulée « La civilisation féodale de l'an 1000 à la colonisation de l'Amérique » que, j'ouvre les guillemets, « parce qu'il constitue une époque entachée d'un préjugé infamant exceptionnellement tenace, le Moyen-Âge invite, avec une acuité particulière, à une réflexion sur la construction sociale du passé et sur la fonction présente de la représentation du passé. C'est même devenu un objet de recherche en soi que d'étudier les représentations et les usages politiques, idéologiques, touristiques ou festifs du passé médiéval jusqu'à aujourd'hui. On appelle cela le médiévalisme. Les historiennes et historiens du Moyen-Âge étudient autre chose. Et régulièrement, il leur semble nécessaire de publier des livres ou de s'exprimer dans les médias pour rendre justice à ce que fut le vrai visage du Moyen-Âge au-delà des idées reçues. C'est ainsi le titre d'un ouvrage publié en 2017 regroupant une vingtaine de spécialistes de l'histoire médiévale telle qu'on la pratique aujourd'hui. Ce ne sont ni les premières ni les dernières des professions de foi éditoriales consacrées à déplacer le regard des stéréotypes et des imaginaires vers des savoirs historiques solides et des questionnaires libérés des idéologies sur cette période de l'histoire qui ne mérite ni légende noire ni légende rose, comme put l'écrire également Jacques Le Goff. En 1977, il y a bientôt 50 ans, cet historien médiéviste regroupait déjà des essais qui plaidaient pour un autre Moyen-Âge et en cela une autre histoire du Moyen-Âge. En 1996, dans les premières lignes de l'avant-propos au manuel d'études qui accompagna des générations d'étudiants débutant leur apprentissage à l'université, l'historienne Claude Gauvard écrit que, je la cite, « Le Moyen-Âge, constamment évoqué par nos contemporains pour exprimer leurs fantasmes et leur dégoût de la violence et du fanatisme, exerce à la fois fascination et mépris. » Elle poursuit « La charge affective qui entoure le Moyen-Âge impose de se méfier des jugements de valeur, qu'ils soient favorables ou hostiles. » En 2018, cette historienne, qui a consacré des décennies de travail à étudier la France médiévale, ses systèmes de valeurs, les ressorts de sa justice et les voix du peuple, offrent justement un livre qui va au-delà des jugements de valeur. Il est consacré à un sujet grave, difficile, celui de savoir ce que condamner à mort pouvait signifier dans la France du XIIIe au XVe siècle. La peine de mort que notre République peut et doit s'honorer d'avoir abolie, grâce à Robert Badinter le 9 octobre 1981, était au Moyen-Âge, je cite Claude Gauvard, « fille de la grâce royale ». Jérôme Bachet, encore lui, conclut son étude de la civilisation médiévale au prisme de ce qu'il a appelé une logique générale d'articulation des contraires. Sans avoir besoin de nous aventurer ensemble sur des sujets aussi sensibles, aussi douloureux que la peine de mort, l'articulation des contraires se décèle aussi quand il s'agit de comprendre comment les hommes et les femmes du Moyen-Âge pouvaient appréhender la personne, corps et âme, la société, unis dans des liens de solidarité horizontaux très forts, sensibles à des représentations des groupes sociaux, comme profondément complémentaires, mais marqués aussi par des systèmes de domination complexes, tant économiques que symboliques, comme dans le rapport du spirituel sur le charnel, du masculin sur le féminin, sans que cela veuille toujours dire, sans nuance, de l'homme sur la femme. Très récemment, en 2023, l'historien Martin Aurel terminait l'introduction d'un petit ouvrage qu'il publiait à nouveau parmi de nombreux livres de référence pour la profession, en forme de plaidoyer contre 10 idées reçues sur le Moyen-Âge. Il s'exprimait ainsi. L'historien n'est pas moraliste. Il ne lui revient pas de juger le temps qu'il étudie. Et le Moyen-Âge n'est ni pire ni meilleur qu'une autre époque. C'est un objet d'étude et de réflexion qu'il doit appréhender, sinon avec distance, du moins avec nuance. Le pire ennemi de la méthode historique est l'anachronisme, consistant à plaquer nos valeurs sur un passé si autre. Moi, j'étudie aussi, à ma mesure, cette époque si autre, appelée Moyen-Âge, depuis cet après-midi de 1998 où Claude Govard me confia mon premier sujet de recherche. Il allait y être question de techniques pastorales, d'honneur et de mariage. Quelques années plus tard, je me suis engagée dans une thèse de doctorat, soutenue en 2008, pour savoir ce que pouvait bien faire à la société médiévale d'avoir dû penser que les mariages clandestins devaient être interdits tout en restant valides. Je creuse depuis lors ce sillon comme maîtresse de conférence à l'Université d'Angers. Je tente de comprendre un peu moins mal le sens des mots, la portée de répertoires de normes de conduite telles qu'elles furent pensées, régulées et saisies par les hommes et les femmes à qui elles furent adressées. Je m'attache à comprendre ce qui fait et défait les liens dans le couple, dans la famille, dans la parenté, dans la société chrétienne. Comment ce qui semble inconciliable trouve à se concilier ou pas, et comment peuvent les vivre celles et ceux sur qui sont projetés ces ensembles de règles en tension. Alors, après avoir étudié les possibles chemins de traverse pour faire couple au Moyen-Âge, j'ai étudié, après d'autres et avec d'autres, les différences qui peuvent affecter le lien de filiation entre des enfants et leurs parents, selon le couple qu'ils ont pu ou n'ont pas pu ou voulu former. Ce qui est clandestin, ce qui est illégitime, ce qui est prohibé, ce qui est interdit, ce qui est empêché, ce qui est licite, ce qui est légitime, ce qui est honnête, ce qui est honorable, ce qui est vrai. Ce que c'est qu'être né en loyal mariage. Ce que cela veut dire de faire comme si. Le fils porte-t-il la faute de son père? Les fils paient-ils pour la faute de leur père? Et les filles? Qu'est-ce qu'imiter, ressembler? Qu'est-ce qu'être responsable? Qu'est-ce qui assigne une place dans la généalogie? Qu'est-ce qu'être donné, nourri? Qu'est-ce donc que cette bastardie, cette macule de géniture, ce défaut de naissance? Qu'est-ce qu'être bâtarde ou bâtard au Moyen-Âge?
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent, je suis accueilli par la MIF comme Lee Wellin à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère, subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards, pour chasser comme les albiges ou en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres, j'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards, un stylo, un style de barbare. On mettra musique des rimes de bâtards. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. On sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des macules et des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des ratures et des pages. Je prie pour que la chance te tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des vies brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclaircies, y'en a pas une seule par journée. Pour que la chance ne tarde plus, je veux pas être un bâtard de plus.